Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro. Au sommaire de cette édition du vendredi 18 octobre 2024. Au Gabon, le référendum sur la nouvelle constitution a été fixé au 16 novembre. Au Kenya, c'est la confusion après une décision de justice sur la destitution du vice-président. En Côte d'Ivoire, l'exécutif dissout les syndicats étudiants.
Ce qui surprend, c'est que, au-delà de la FESI, la mesure de dissolution prend en compte toutes les associations scolaires et étudiantines.
Geoffroy Julien Kouao, politologue ivoirien, nous dira la portée de cette décision dans la partie magazine. Après la mort de son chef, le Hamas refuse de libérer les otages à Gaza sans cesser le feu. Joe Biden rencontre Charles, Macron et Starmer à Berlin pour son dernier voyage officiel en Europe. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Les Gabonais sont appelés aux urnes le 16 novembre prochain pour un référendum sur le nouveau projet de constitution. Les précisions avec Yacouba Ouedraogo.
Le Conseil des ministres a exprimé sa satisfaction concernant l'aboutissement du projet de nouvelle constitution. La prochaine étape décisive du processus de transition sera l'organisation du référendum constitutionnel. C'est ce qu'indique un communiqué précisant que 4 décrets ont été adoptés pour encadrer la procédure, dont l'un convoque le collège électoral le 16 novembre 2024 et un autre précise que les électeurs auront le choix entre 2 bulletins. Oui et non. Le projet de constitution n'a pas encore été rendu public. Selon une version qui circule sur Internet et qui n'a pas été démentie par les autorités, le texte prévoit l'instauration d'un régime présidentiel sans premier ministre, un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois et l'obligation pour tout candidat d'être né de parents gabonais. Il consacre aussi le mariage comme l'union entre 2 personnes de sexe différent, rend le service militaire obligatoire et confirme le français comme langue officielle du pays. Ce référendum du 16 novembre prochain est une étape clé vers l'élection présidentielle fixée à août 2025.
La France a demandé à la Guinée que toute la lumière soit faite sur la disparition des opposants Fony Kémengué et Mamadou Bio Ba, a indiqué ce vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. C'est un sujet qui a été évoqué avec les autorités guinéennes, a déclaré Christophe Lemoine, sans préciser la date de l'échange. Les 2 leaders de la société civile en Guinée sont portés disparus depuis juillet dernier. Au Ghana, l'Assemblée nationale a basculé dans l'opposition après la défection de 4 députés, compliquant le processus législatif à moins de 2 mois des élections générales de décembre. 4 députés, dont 2 du New Patriotic Party au pouvoir, 1 du National Democratic Congress, principal parti d'opposition, et 1 indépendant, ont déclaré se présenter à nouveau aux élections législatives de décembre, mais sous des étiquettes différentes. Les membres du NPP, menés par le leader parlementaire Alexander Afenio-Markin, ont quitté la session et ont promis de boycotter les séances suivantes jusqu'à ce que la Cour suprême saisie se prononce. Au Nigeria, le bilan de l'explosion d'un camion-citerne mardi soir dans le nord du pays s'élève désormais à 170 morts et 70 personnes hospitalisées en soins intensifs, d'après Lawan Chilzu Adam, un porte-parole de la police. Mardi soir, un camion qui transportait de l'essence s'est déporté pour éviter d'entrer en collision avec un autre camion dans la localité de Magéa, à 100 de kilomètres de Kano, la grande ville du nord. Journée mouvementée dans la politique kényane à la suite de la destitution du vice-président Gachagua, suivie de la désignation de son successeur Kindiki, puis une volte-face avec la suspension du remplacement du vice-président destitué. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
La haute cour kényane a suspendu le processus de remplacement du vice-président jusqu'au 24 octobre. Les avocats du vice-président qui avaient saisi la cour jugent la destitution de leur client anticonstitutionnelle et précipitée, M. Gachagua ayant été privé de l'opportunité de se défendre car il est actuellement hospitalisé. Ils ont lancé vendredi matin une procédure judiciaire pour bloquer son remplacement. En raison des problèmes soulevés dans cette saisine et de l'urgence démontrée, une ordonnance conservatoire est par la présente émise pour suspendre l'application de la résolution par le Sénat, a jugé la haute cour kényane. Mais à moins de 2 kilomètres du tribunal, l'Assemblée nationale a malgré tout publié ensuite un avis officiel sur la nomination de M. Kithure Kindiki, préparant le terrain pour qu'il prête serment. Les députés avaient adopté la semaine dernière à une écrasante majorité la motion de destitution de M. Gachagua. Jeudi soir, le Sénat l'a jugé coupable de violation grave de la Constitution, de menaces envers les juges et de pratiques politiques de division ethnique. Quelques heures après, le président William Ruto a nommé M. Kindiki à la vice-présidence, écartant du pouvoir son adjoint avec qui il était en conflit ouvert depuis plusieurs mois.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité internationale, le Hamas a affirmé aujourd'hui que les otages retenus dans la bande de Gaza ne seront pas libérés tant qu'Israël ne mettra pas fin à son offensive, malgré la mort de son chef Yahya Sinwar, qui a porté un coup sévère au mouvement islamiste palestinien. Les précisions de Dili Diko.
Le Hamas a affirmé que le décès de son chef, Yahya Sinwar, renforcerait le mouvement et que les otages retenus dans le territoire palestinien ne seraient pas libérés avant l'arrêt de l'agression contre Gaza. Sa branche armée a affirmé que le combat va continuer jusqu'à la libération de la Palestine. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré la veille que la mort de Yahya Sinwar marquait le début de la fin de la guerre à Gaza et plusieurs dirigeants étrangers ont émis l'espoir qu'elle ouvre la voie vers un cessez-le-feu. Le président Joe Biden, en déplacement en Allemagne, y a vu l'opportunité d'un chemin vers la paix au Proche-Orient et d'un meilleur avenir à Gaza sans le Hamas. Le Hamas au pouvoir à Gaza depuis 2007 est très affaibli après plus d'un an de guerre, a confirmé vendredi la mort de son chef, considéré comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Alors que les raids continuent dans l'enclave palestinienne, les Gazaouis disent désespérés de voir la fin de la guerre qu'ils vivent depuis plus d'un an.
L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui envoyer une nouvelle unité en renfort à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, où les habitants déclarent que Saal poursuit son offensive, détruisant routes et maisons. Le camp de Jabalia est le plus grand de la bande de Gaza, qui compte au total 8 camps de réfugiés. Israël affirme que Jabalia abrite des combattants du Hamas et du djihad islamique. En visite en Allemagne, le président américain Joe Biden a appelé ce vendredi à ne pas relâcher le soutien à l'Ukraine pour l'aider à obtenir une paix juste et durable au moment où Kiev est à la peine face à l'invasion russe. Jacques Aristide.
Arrivé hier à Berlin, la capitale allemande, pour un voyage d'adieu éclair chez l'un des plus fidèles alliés des États-Unis en Europe, Joe Biden a condamné l'attaque vicieuse, selon lui, du président russe Vladimir Poutine, lancé en février 2022 contre l'Ukraine. L'appel du président américain à maintenir l'aide à l'Ukraine intervient alors que le pays recule sur le front oriental. De surcroît, d'après les renseignements sud-coréens, la Corée du Nord a envoyé un contingent de 1500 soldats des forces spéciales en soutien à son allié russe et d'autres devraient suivre. « Nous soutenons l'Ukraine de toutes nos forces », a affirmé de son côté Olaf Scholz en recevant Joe Biden à la chancellerie. Dans le même temps, le chancelier allemand a dit veiller à ce que l'OTAN ne devienne pas un belligérant de la guerre afin d'éviter qu'elle ne se transforme en une catastrophe encore plus grande. Le chef de l'État allemand, Frank-Walter Steinmeier, a salué en Joe Biden un guide pour la démocratie qui a montré un soutien indéfectible à l'OTAN et l'Ukraine à un moment le plus dangereux depuis la fin de la guerre froide. Le président américain a reçu l'Ordre national du mérite pour sa contribution à la relation transatlantique et à la défense de la démocratie.
Le président russe Vladimir Poutine a qualifié aujourd'hui de dangereuses provocations les propos de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a suggéré la veille à Bruxelles que l'Ukraine pourrait chercher à acquérir l'arme nucléaire. Volodymyr Zelensky a suggéré jeudi dans un discours dans la capitale belge que son pays pourrait chercher à obtenir l'arme nucléaire pour parvenir à une forme de dissuasion face à Moscou s'il n'obtenait pas d'entrée dans l'OTAN. Après la chute de l'URSS, l'Ukraine avait accepté de remettre à la Russie les armes nucléaires soviétiques stockées sur son territoire dans le cadre d'un accord conclu en 1994 et connu sous le nom de Mémorandum de Budapest. Et puis Vladimir Poutine a annoncé ce vendredi qu'il ne comptait pas se rendre au sommet du G20 au Brésil, prévu pour le 18 et 19 novembre, afin de ne pas perturber ce sommet. M. Poutine est visé depuis mars 2023 par un mandat d'arrêt de la CPI pour des suspicions de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. Pour finir, un tribunal italien a invalidé aujourd'hui le placement en rétention en Albanie d'un premier groupe de migrants secouru par la marine italienne, jugeant que l'accord conclu entre le gouvernement de Giorgia Meloni et l'Albanie contrevient aux règles européennes. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mohamed Oumfa.
Les Émirats arabes unis ont octroyé au Tchad un prêt de 500 millions de dollars avec un taux concessionnaire de 1% sur 18 ans. La convention de prêt a été signée le 11 octobre lors de la visite du président Mahamat Idriss Déby aux Émirats et ratifiée par le Parlement tchadien le 16 octobre. L'objectif de ce financement est de renforcer les capacités financières du gouvernement tchadien face notamment aux urgences causées par les graves inondations de 2024. Les réformes engagées par l'administration du président nigérien Bola Ahmed Tinubu sont essentielles, mais ont augmenté la pauvreté qui concerne désormais plus de la moitié des habitants, souligne la Banque mondiale dans son rapport semestriel. Depuis 2018, la proportion de Nigérians vivant sous le seuil national de pauvreté a fortement augmenté, passant de 40% à 56%, soit 129 millions de Nigérians qui vivent dans la pauvreté, indique le rapport publié jeudi.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Arts martiaux mixtes pour commencer avec le retour attendu de Francis Ngannou dans la discipline.
Oui, le Camerounais se bat demain samedi contre le Brésilien Renan Ferreira à Riyad en Arabie Saoudite. Sa toute première sortie en MMA depuis quasiment 3 ans, Francis Ngannou se dit décidé à prouver ce dont il est capable et espère se découvrir lui-même. Le dernier combat de MMA de Francis Ngannou remonte à janvier 2022. Entre-temps, il s'est offert 2 combats de boxe anglaise, son rêve d'adolescent, contre les superstars Tyson Fury et Anthony Joshua. Les 2 affrontements qui se sont aussi disputés à Riyad se sont soldés par des défaites. Cette fois-ci en MMA, Ngannou affronte le Brésilien Renan Ferreira pour tenter de décrocher la ceinture Super Fight des poids lourds du PLF. Ce combat est disputé sous la bannière du PLF, justement Ligue émergente dans le monde de MMA et non de l'UFC, l'organisation de référence qui l'a quitté avec fracas l'an dernier.
Nous revenons sur cet accord signé entre l'Académie Foot du Mali et le FC Barcelone.
Eh oui, pour le président de l'Académie Africa Foot Bahama, Sidi B, cet accord de 5 ans permettra au centre de formation malien d'avoir une meilleure visibilité et de prospérer. Notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, nous en dit plus.
Bahama Sidi B, président de l'Académie Africa Foot, s'estime heureux. Il a indiqué que c'est le fruit du bon travail au niveau de la petite catégorie au Mali.
Aujourd'hui, le FC Barcelone est une référence mondiale. Donc, associer notre nom au FC Barcelone, je dirais que c'est un rêve qui devient une réalité. On voit que le Mali regorge de talents. Pour qu'ils puissent aller monnayer leurs talents ailleurs, et surtout sur le continent européen, le FC Barcelone nous donne aujourd'hui l'opportunité. C'est quelque chose qui nous rend fiers. C'est pas seulement Africa Foot. Pour moi, cette histoire, c'est le Mali.
Le président de l'Académie Africa Foot nous dit comment ce partenariat avec le FC Barça est arrivé.
Aujourd'hui, au sein du FC Barcelone, le recruteur en chef du Barça au niveau de l'Afrique, il est malien et logiquement, il est africain. Dès qu'il a été nommé à son poste, il s'est immédiatement tourné vers l'Afrique. Il en a parlé à son président, que je salue ici, parce que qui a suivi son employé, pour qu'il vienne en Afrique pour solliciter les académies.
Aujourd'hui, le Barça se dit que l'avenir du football se trouve en Afrique. Donc, ils veulent associer leur image à des académies en Afrique. C'est pour cela qu'ils ont sollicité une académie en Côte d'Ivoire, une académie au Sénégal. Et au Mali, nous, on a eu la chance d'être l'académie choisie pour être partenaire.
À propos de l'essentiel des termes de l'accord, il y a par exemple la formation. Bahama Sidi B, président de l'Académie Africa Foot.
La formation de nos entraîneurs, la formation de nos joueurs et même nous les dirigeants chaque année. La deuxième chose aussi, c'est que le Barça a la priorité sur nos 2 meilleurs éléments.
Déjà, nous signale Bahama Sidi B, il y a un accord pour un des joueurs d'Africa Foot promu pour le Barça. Mais il faudra attendre d'abord sa majorité pour diffuser les informations lui concernant. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Page des sports, VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le gouvernement ivoirien a annoncé hier la dissolution de toutes les associations syndicales étudiantines après l'assassinat de deux hommes par des individus suspectés d'appartenir à un puissant syndicat étudiant, la FESI, la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. La FESI est souvent accusée de commettre des violences sur les campus ivoiriens. Yacouba Ouedraogo, agent à Abidjan, le politologue Geoffroy Julien Kouaou.
Après le décès de deux étudiants sur le campus universitaire de Cocody, l'opinion publique nationale appelait les autorités à la dissolution de la FESI. Ce qui surprend, c'est que au-delà de la FESI, la mesure de dissolution prend en compte toutes les associations scolaires et étudiantines.
La FESI se réclame plus de 100 000 adhérents sur 300 000 étudiants en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette dissolution va passer?
Vous savez que la FESI a été à deux reprises par le passé dissoute. Et à chaque dissolution, elle a su faire preuve de résilience et revenir au devant de la scène scolaire et étudiantine. Peut-être que le contexte a changé et que cette fois-ci, vu le fait que l'opinion publique nationale est vraiment exaspérée par les actions de la FESI, peut-être que cette dissolution sera la bonne. Mais dans tous les cas de figure, tant qu'il y aura un manque d'infrastructures pour accueillir les étudiants, tant que les étudiants n'auront pas assez de logements, tant que les étudiants ne seront pas boursiers dans leur majorité, l'esprit FESI demeurera toujours.
Est-ce que la FESI se contentait justement d'être cette association-là qui revendiquait des meilleures conditions d'études et de vie?
La FESI a, par le passé, été un mouvement avant-gardiste dans la défense des droits et intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Elle a permis de préserver un certain nombre d'acquis, comme le prix de la carte de bus qui est resté inchangé, comme ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le maintien du parapluie atomique, c'est-à-dire qu'à partir de la troisième année de licence, vous ne pouvez plus être renvoyé de l'université. Mais à côté, il faut reconnaître que la FESI a toujours été vue par les Ivoiriens comme une association extrêmement violente, voire criminelle.
On sait que des hommes politiques comme Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, sont issus des rangs de la FESI. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que la FESI a une connotation politique au-delà des autres associations étudiantines qui ont été dissoutes également?
La FESI a toujours été politiquement marquée. D'abord, à sa naissance, en 1990, elle s'est définie comme une association proche de la gauche ivoirienne. Et d'ailleurs, lors des élections présidentielles de 2000, et de 2010, elle a clairement pris position pour les candidats de gauche, principalement Laurent Gbagbo. Et au sein même de la FESI, il y a toujours eu des dissidences, en ce sens que certains membres étaient proches principalement du RDR, aujourd'hui RHDP. Et après donc le passage à la FESI, M. Soro Guillaume a rejoint M. Alassane Ouattara, M. Blé Goudé a rejoint M. Gbagbo, ainsi que d'autres étudiants. Dans tous les cas de figure, la guéguerre entre les partis politiques était transposée au sein de la FESI.
Le politologue ivoirien Geoffroy Julien Kouaou.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
L'Institut américain de financement du développement international, DFC, vient de boucler une tournée de 3 jours au Mali pour montrer aux représentants de banques, associations d'affaires et responsables gouvernementaux les capacités de DFC à soutenir le secteur privé malien. Le reportage de Mohamed Danyoko à Bamako.
Aider le secteur privé malien en lui apportant le soutien financier nécessaire pour son épanouissement et sa compétitivité au plan national et international, explique cette tournée de 3 jours et de rencontres avec les acteurs majeurs du secteur. Abdou Touré, représentant DFC Afrique francophone de l'Ouest et du Centre.
Les principaux outils d'intervention sont la dette à long terme. Donc nous sommes là pour compléter le travail que les banques locales peuvent déjà faire en offrant des durées de financement beaucoup plus longues. Donc nous offrons également des opportunités de prise de participation, mais toujours minoritaire, avec une détention limitée à 30% du capital des entreprises et sans intention d'influencer leur gouvernance. Nous offrons également des garanties essentiellement pour les banques afin de leur permettre d'accompagner de plus petites entreprises que nous ne pouvons pas accompagner directement.
En investissant dans des secteurs importants comme l'énergie, les infrastructures, les soins de santé et la technologie, DFC prend en compte les préoccupations du patronat malien, comme l'indique son président Moussa Dekbali.
Vous savez, au niveau du CNPM, nous avons mis sur la table des suggestions pour améliorer les 5 facteurs de compétitivité de toute économie, d'ailleurs pas que l'économie malienne, à savoir l'énergie, nous sommes en pleine crise, la bonne formation des jeunes, parce que souvent les jeunes sortent avec les formations qui n'améliorent pas leur employabilité, les infrastructures. Pour les infrastructures, il faut beaucoup de financement, une fiscalité justement répartie et le financement qui est donc le cinquième facteur de compétitivité. L'Afrique, de façon générale, a besoin d'énormes capitaux. La BAD a estimé à 150 milliards de dollars à investir chaque année pour que l'Afrique puisse rattraper son retard en matière d'infrastructure.
Cette tournée de la DFC intervient une année après la mise en place par l'ambassade des États-Unis au Mali de la toute première chambre de commerce américaine au Mali avec plusieurs actions à son actif. Rachna Koronen, ambassadrice des États-Unis au Mali.
En 2023, l'ambassade de Bamako a lancé la toute première chambre de commerce américaine du Mali, dirigée de délégations et des salons commerciaux, et accueille une mission commerciale de la diaspora malienne-américaine à Bamako. Des engagements qui ont attiré une attention médiatique positive significative, tout en cultivant de nouvelles pistes commerciales.
Pour Bakayoko Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat, la DFC sera un soutien aux nombreuses initiatives mises en place pour le développement du secteur privé malien.
Et le plus éventuellement que DFC peut nous apporter, c'est qu'ils peuvent justement intervenir dans l'aspect financement de l'apport personnel, donc le financement en fonds propres des projets. Donc à ce niveau, ils peuvent intervenir dans le capital des projets supportés par les jeunes.
Avec une enveloppe de 60 milliards de dollars américains pour le financement des initiatives des pays émergents, les entrepreneurs maliens disposent désormais d'une source de financement fiable. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, a annoncé avoir réactivé les investigations sur les crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo. Eddie Sango a joint à La Haye le procureur adjoint de la CPI, Mam Mandiaye Niang.
Pour ce qui concerne la RDC, les crimes qui nous interpellent sont a priori des crimes qui sont de l'ordre des crimes de guerre dans le cadre d'un conflit qui peut être qualifié de non international ou en partie international, et ensuite de crimes contre l'humanité. Mais ça, comme je dis, c'est juste une détermination a priori que nos enquêtes permettront d'affiner et de préciser. Pour ce qui concerne aussi l'étendue de la conflictualité, nous avons bien indiqué que notre priorité, c'est le nord-ouest, le nord-est, mais en fait, notre zone de compétence, qui est fondée sur la saisine de 2002 et non pas forcément sur la nouvelle saisine, en fait, nous interpelle sur l'entier territoire. Mais nous avons indiqué qu'en priorité, nous allons commencer par le nord-est.
Quels sont les moyens que vous avez pour enquêter sur les résumés crimes que commettraient les milices qui sont en Ituri? On parle des Codeco, on parle des Zaïre, on parle de bien d'autres.
Bon, en fait, nos moyens sont connus parce que nous avons des enquêteurs qui peuvent se rendre sur place. Depuis un certain temps aussi, nous avons en fait beaucoup modernisé nos moyens d'enquête, notamment pour ne plus compter seulement que sur les témoins. Avec l'intelligence artificielle, avec l'exploitation d'images satellitaires et de la preuve documentaire.
Les rebelles ZADF, qui sont islamistes, sont accusés de commettre beaucoup de crimes et de violations là-bas. ils se sont affiliés, comme je l'ai dit, à l'État islamique. Comment allez-vous faire pour arrêter et même juger leurs chefs qui sont dans la jungle?
Il y a des évaluations qui sont effectuées. Ces évaluations nous définissent les modes d'intervention pour avoir accès à la preuve sans forcément compromettre la sécurité et la vie aussi de nos enquêteurs ou bien de nos témoins surtout.
Le Rwanda est accusé par Kinshasa de soutenir le M23. Et Kigali accuse à son tour Kinshasa de soutenir les FDLR. Quel type d'enquête pouvez-vous mener? Et même si les enquêtes se terminent, le Rwanda n'est pas signataire du traité de Rome. Que pouvez-vous faire contre les Rwandais?
Le critère de notre compétence, parfois, il varie. Comme vous le voyez, nous enquêtons aujourd'hui en Ukraine à un moment où ni l'Ukraine ni la Russie étaient des États partis. Nous enquêtons sur la Palestine, Israël n'est pas État parti. Donc, ceci n'est pas un fait nouveau. Si un État parti nous saisit, et parfois même un État parti ne nous saisit pas, mais le Conseil de sécurité nous saisit, mais dans l'esprit, ça peut donner fondement à notre compétence. Mais pour rester dans le cas spécifique de la RDC qui est un État parti nous saisit par rapport à des crimes commis sur son territoire, cela suffit pour nous donner compétence.
Mam Mandiaye Niang, procureur adjoint de la CPI. Le président américain Joe Biden a déclaré hier jeudi que la mort de Yahya Sinwar donne l'occasion d'un règlement politique entre Israéliens et Palestiniens. C'était peu après l'annonce par les forces israéliennes de la mort du cerveau de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 qui a entraîné la guerre depuis un an à Gaza. La correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Pendant des années, en tant que principal dirigeant du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar a développé les capacités militaires du mouvement islamiste à Gaza. Il est présenté comme le cerveau de l'attaque contre Israël le 7 octobre 2023. Israël a déclaré avoir éliminé Yahya Sinwar lors d'une opération dans le sud de Gaza et a publié une vidéo montrant ses derniers moments. Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien.
To the people of Gaza.
À la population de Gaza, j'ai un message simple. Cette guerre peut prendre fin demain. Elle peut se terminer si le Hamas dépose les armes et rend nos otages.
Au lendemain de cette annonce, le président Joe Biden s'est rendu à Berlin, en Allemagne. Il a appelé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour le féliciter.
Le moment est venu d'aller de l'avant. Aller de l'avant, aller vers un cessez-le-feu à Gaza, s'assurer que nous avançons dans une direction qui nous permettra d'améliorer les choses pour le monde entier.
La campagne militaire israélienne a visé les dirigeants du Hamas, mais a également tué des dizaines de milliers de civils palestiniens. L'appel de M. Biden à mettre fin au combat a été réitéré quelques instants plus tard par sa vice-présidente Kamala Harris.
Les combats doivent cesser de manière à ce que Israël soit en sécurité, que les otages soient libérés, que la souffrance à Gaza prenne fin et que le peuple palestinien puisse exercer son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l'autodétermination.
Les familles des otages israéliens, toujours détenus par le Hamas, disent que l'assassinat de Sinwar rend plus urgente la conclusion d'un accord de cessez-le-feu. Orna Nurtra, mère de l'otage israélo-américain, Omer Nurtra.
Leurs vies sont plus que jamais en danger. Nous appelons le gouvernement israélien et l'administration américaine à agir rapidement et à faire tout ce qui est nécessaire pour parvenir à un accord avec les ravisseurs.
Mais malgré la pression croissante sur le gouvernement Netanyahou, la fin des combats à Gaza n'est peut-être pas l'objectif principal d'Israël. Jonathan Reynolds de l'université Bar-Ilan par Skype.
L'attention d'Israël et de l'Amérique se porte sur le Liban parce qu'il existe une opportunité d'affaiblir considérablement le Hezbollah. Et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup tous les alliés américains dans la région, l'Arabie saoudite, l'Égypte, etc.
Après une année de campagne militaire israélienne intense, les habitants de Gaza disent que la mort de Sinwar ne mettra probablement pas fin à la guerre. Les experts de l'ONU affirment que plus de 1,8 million de personnes, soit près de 90% de la population de Gaza, souffrent de la faim.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.